L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique. L'atelier numérique, votre rendez-vous high-tech. Chaque samedi, 16h-18h, c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve. L'atelier numérique, c'est avec Antoine Cyr, bien sûr, qui est là. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Aurore Géraud et Constance aussi. Bonjour Aurore. Bonjour. Et Constance.
Bonjour.
Et puis tout à l'heure, nous aurons aussi Lila Megraoua qui sera avec nous. Nathalie Doré depuis l'atelier US qui viendra nous rendre visite pour son Silicon Carnet. Au menu de cet atelier, les gadgets aussi d'Antoine dans quelques instants. Antoine, on se retrouvera aussi tout à l'heure pour la fin de cet atelier, pour le crash test. Et on va parler de la journée du stress en Angleterre.
Oui, la journée du stress. Alors c'est les Anglais qui ont inventé ça parce qu'ils se sont rendu compte que les Anglais étaient très stressés. Mais derrière, il y a aussi un coup de com. Et puis il y a aussi un coup de réseau social. Donc le stress est devenu un sujet très geek.
Très bien, on retrouvera notre enquête de l'atelier tout à l'heure. On évoquera la route de demain, est-ce qu'elle sera connectée? Comment sera-t-elle connectée? Est-ce qu'elle sera high-tech la route de demain? On verra ça tout à l'heure avec nos invités. Notre web stratégie, on s'intéressera à UPS cette semaine. On évoquera aussi l'innovation à la française dans notre passion selon Sanet. Notre dossier de l'atelier US, être une femme entrepreneur aux États-Unis. Et puis donc Eric Le Brolou sera là pour notre rendez-vous avec 01net.com. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence par l'actu vue par l'équipe de l'atelier. Alors, est-ce que c'est Constance ou Aurore qui va commencer? C'est Constance alors, on y va.
Alors moi, je vais vous parler d'un petit robot qui va être l'ami de vos soirées les plus folles.
Ah.
Alors, vous connaissez sûrement le piano
sans
cocktail.
Sans alcool, la fête est plus folle en plus.
Elle sera un petit peu moins folle du coup.
Ah, allez-y, Constance.
Alors, vous connaissez sûrement le piano cocktail de Boris Vian dans L'écume des jours.
Oui.
Et une entreprise allemande qui s'appelle Social Shot a décidé de le digitaliser grâce à Facebook. Alors, en fait, comment ça fonctionne? Vous vous connectez à votre session Facebook sur ce petit robot. Et celui-ci va analyser votre personnalité numérique, toutes vos datas, et en fonction des likes, des interactions, il va ensuite se concentrer sur 5 axes de votre personnalité, par exemple le degré d'ouverture, l'extraversion, alors le neuroticisme, qui a la tendance à éprouver régulièrement des émotions négatives.
Le
très intéressant.
Ça va bien avec la journée de presse.
Oui, ça,
exactement.
C'est bien.
Et en fait, en fonction des 5 axes,
oui,
il y a 5 ingrédients qui correspondent, et plus vous êtes un niveau élevé d'un axe ou non, plus vous allez avoir de cet ingrédient, par exemple de la vodka, du gingembre, et vous allez donc avoir un cocktail personnalisé lié à votre
personnalité.
Profil Facebook, digital.
Eh bien, dites-moi.
C'est horrible.
Ça fait flipper, non ?
J'espérais du coup avoir un profil qui a bon goût, parce que sinon, c'est embêtant.
Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai.
Puis ça encourage
pas le changer.
Des comportements à risque un peu, non ?
Essayez d'être méchant sur les réseaux sociaux pour avoir plus de vodka.
Est-ce qu'on connaît justement les ingrédients qui sont un peu négatifs comme ça, genre si on est un peu, voyez, non, il y a pas,
en fait,
ils donnent pas la recette des alcools.
Un des axes justement qui est étudié, c'est le degré de prise de conscience de ce qui se passe dans le monde. Et quand l'utilisateur a un faible degré de prise de conscience, on lui met moins d'alcool dans son cocktail, peut-être justement pour qu'il soit un peu plus éveillé
et pour pas qu'il oublie quoi.
Se responsabilise.
Eh bien, dites-moi. Bon, heureusement nous, on boit jamais de cocktail, hein.
Oui, nous, on est toujours sobre.
De l'eau, toujours. Aurore.
Moi, je vais vous demander quel est le réseau social qui vous rend le plus heureux.
Alors, ça c'est une bonne question, Aurore. Antoine, une petite idée, le réseau social qui vous rend le plus heureux?
Le téléphone fixe.
Le Minitel.
Le téléphone fixe. Un bon fax, hein. Ça c'est bien quand il arrive.
Ouais, c'est un bon réseau social.
Non, moi je dirais quoi, Instagram, allez.
Snapchat apparemment.
Snapchat
d'après une étude de l'université du Michigan, ce serait donc Snapchat parce que alors ça a été, c'est quand même un psychologue derrière qui a fait cette étude très sérieuse sur la clé du bonheur et donc Snapchat parce que ça permet, on a constaté que c'était partagé avec des personnes beaucoup plus proches de soi-même. Donc on partage plus facilement avec ses parents, ses amis très proches. Donc c'est un peu la clé du bonheur. Et Snapchat toujours parce que ça permet apparemment une meilleure représentation de soi. Parce qu'on ne peut pas mettre trop de filtres, pas trop le temps de faire quoi que ce soit.
Et oui, puisque c'est de l'instantané.
C'est de l'instantané.
Donc ça ressemble plus à ce qu'on est.
Voilà. Donc c'est on a meilleure estime de soi. Et
Constance n'est pas d'accord. Hein.
On se pose elle pas a la fait question.
Comme ça. Vous voulez filtre Halloween où je ressemblais à une grosse citrouille si ça ressemble
parce
à ce que
Constance
je suis.
Parce que Constance est tout à fait d'accord sur le fait que Snapchat rend heureux. Elle nous montre très souvent du Snapchat. Donc voilà. Et donc une meilleure image de soi, l'impression d'être plus aussi en face à face, étonnamment.
Mm-hmm. D'accord. Bon, très bien.
Pourquoi
Snapchat. Antoine Cyr, quelle est votre news?
Alors, voilà, je vous donne ma news.
Merci Antoine, ça c'est pas mal. Celle-là, vous l'avez faite une fois, c'est pas la peine de la refaire. Hein? Allez, non. on va pas la garder.
Hein? Donc, Marriott et le groupe Samsung se sont associés, donc Marriott c'est une chaîne d'hôtels, se sont associés pour un nouveau service qui est, par exemple, je sais pas, comme le room service, hein, vous pouvez commander dans les hôtels Marriott, c'est des hôtels de grand luxe, donc je pense que si vous avez envie
d'un hamburger à 2h du mat.
Voilà, ça doit pouvoir se faire. Une douzaine d'huîtres, peut-être pas quand même à 3h du matin, mais le hamburger, je vous fiche mon billet.
J'adore cette expression. Oui. Je vous fiche mon billet.
Absolument. D'accord. Je vous fiche mon billet que
qu'on
c'est
peut en
possible.
Avoir, hein.
Mais jusqu'à présent, il y a une chose qui n'était pas possible, c'était de commander en pleine nuit un casque de réalité virtuelle.
Ah oui, ça c'est plus compliqué.
Et donc, maintenant c'est possible. Alors, ce sont des cartes postales de réalité virtuelle, hein. Ce sont des images qui ont été tournées avec une caméra à 360 degrés, donc c'est vraiment un vrai univers virtuel, une escapade dans les montagnes chiliennes, la découverte de Pékin, ou bien une virée gourmandise dans un magasin de glace. Donc voilà, alors je sais pas si vous pouvez commander les glaces qui vont avec le casque, j'en suis pas absolument
certain. Parce que si on voit des glaces pendant un quart d'heure, après on a envie d'en manger.
En même temps, peut-être que le fait de manger de voir des glaces satisfait votre envie de glace, et que quand vous avez un peu de cholestérol, c'est peut-être finalement mieux de les regarder, les regarder que de les manger.
Mais je ne suis pas certain du résultat, Antoine.
Sur le cholestérol, si.
Non. Mais le fait de simplement regarder les glaces.
Non, gustativement, c'est très contestable.
Gustativement, c'est très contestable. Constance.
Oui. Alors, Antoine, vous avez parlé la semaine dernière d'écouteurs qui, lorsqu'on les débranchait, permettaient de bloquer le téléphone portable lorsqu'il était volé. Donc moi, je vais vous parler de la suite. Une fois que votre téléphone portable a été volé, ou alors a été perdu, Avast a développé une petite application.
Avast, qui est un éditeur de logiciels d'antivirus.
Antivirus, qui maintenant se lance dans le tracking des téléphones portables, qui s'appelle Anti-Theft. Donc voilà, elle est assez classique vis-à-vis de ses fonctionnalités de base. On peut localiser son téléphone. Si jamais le voleur décide de changer de carte SIM, un ami va recevoir le nouveau numéro de téléphone et la localisation de l'appareil sur son appareil à lui. Mais vous pouvez aussi vous amuser avec votre voleur. Par exemple, déclencher à distance une alarme bruyante. Et si jamais quand vous voulez. Et quand le voleur essaiera d'éteindre le téléphone pour faire taire l'alarme, l'alarme va augmenter et être encore plus bruyante.
Ça, c'est génial.
Alors, encore mieux,
Imaginez, c'est un voisin qui vous a volé, vous l'entendez.
Comme ça, vous pouvez tout de suite y aller.
Et voilà.
Vous pouvez ensuite lui envoyer des petits messages pour essayer de négocier avec lui, lui promettre des glaces peut-être, pour lui dire si tu me rends mon téléphone, t'auras des glaces au Marriott.
Ou un burger, etc.
Pour le convaincre. Et si jamais il obtempère toujours pas, vous aurez droit à un selfie de lui une fois qu'il aura raté trois fois le fait de rentrer votre code PIN. Donc, à défaut de récupérer votre téléphone, vous aurez une jolie photo de votre voleur et vous pourrez vous amuser avec lui.
Et après, on la met sur Snapchat.
Voilà.
Et sur Instagram.
Et vous êtes heureux.
Facebook.
Ah, mais sans téléphone, Snapchat, ça va être plus compliqué.
Ah oui, il faut un deuxième téléphone. Okay. Et voilà, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Constance.
Merci, François.
C'est Avast qui fait ça. Aurore. Aurore, non. Aurore, non. Elle m'a fait non, je veux pas donner de news. Mais Antoine, oui, bien sûr.
Oui, moi j'en ai une petite mignonne.
D'accord. Pourquoi vous prenez cette voix d'un coup comme ça?
Parce que j'essayais d'avoir l'air mignon, mais je comprends que ce soit pas quelque chose de naturel chez moi.
C'est un peu un monstre d'Halloween.
Ah d'accord. C'est un système qui s'appelle AirPack et qui est donc
AirPack.
D'accord. Pas Airbag, mais AirPack, qui est un système de livraison entre particuliers par les airs, avec des petits drones qui sont des quadricoptères. Hein. Et donc, ils peuvent transporter une petite charge. Donc, on n'est pas comme Amazon qui propose de vous livrer des encyclopédies à domicile par...
des encyclopédies par drone. Le mec n'a rien compris. Des encyclopédies qui font 300 kilos. Vous savez quoi? Juste une petite parenthèse parce que ça m'a fait beaucoup rire. La dernière fois, j'ai ouvert ma poubelle. Ça vous arrive de temps en temps d'ouvrir les poubelles pour poser vos poubelles. Et j'ouvre la poubelle et dans la poubelle papier, il y avait toute une encyclopédie de papier. Et j'ai trouvé ça triste, mais ça m'a fait sourire. En disant, ben voilà, c'est quand même un symbole de notre, voilà, de ce qu'on vit.
Je me souviens quand j'étais petit. Mon père avait dans sa bibliothèque une encyclopédia Britannica qu'il avait trouvée sur les quais, qu'il avait achetée alors qu'il était encore étudiant et qu'il gardait précieusement. Et quand on cherchait quelque chose pour faire un exposé,
bien sûr, c'était le Wikipédia de l'époque.
Il me disait, écoute, regarde là-dedans, il y a tout.
Il y a tout.
Il y a tout. Et donc c'était extraordinaire.
Formidable.
Voilà,
et, c'est fini. Et puis Internet est arrivé, Wikipédia, et là, bim.
D'abord,
Encarta, c'est vrai.
Tout à fait, Encarta, c'était pas mal. Alors donc Airpack, donc bah, par exemple typiquement Airpack, ça va vous livrer, par exemple si vous voulez envoyer des lettres d'amour, hein, vous avez une application, alors une, non je dis pas des lettres d'amour partout, mais parce que ça fait un peu,
un petit peu.
Mais donc si vous voulez envoyer une lettre d'amour et que vous voulez qu'elle arrive rapidement, il faut quand même que vous ayez un peu calculé votre coût, parce qu'il faut que vous ayez une appli mobile qui va vous permettre de faire fonctionner l'appli Airpack, etc. Mais donc, voilà, tout ça, tout c'est très bucolique, finalement.
Oui, c'est pas mal. Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Et maintenant, petit détour par l'Asie. Vous le savez, c'est notre rendez-vous vue d'Asie avec Jean de Chambure. Jean de Chambure, alors Jean, bonjour. Merci d'être avec nous, comme chaque samedi dans l'atelier.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors Jean, vous étiez, alors on sait que vous êtes basé à Shanghai, hein, puisque l'atelier Asie est à Shanghai, mais cette semaine vous étiez à Pékin.
Exactement François, j'étais à Pékin parce que s'est déroulée cette semaine la deuxième édition du TechCrunch. Vous savez, c'est ce sorte de festival de start-up qui réunit à la fois les jeunes entrepreneurs et les investisseurs, qui se déroule un peu partout dans le monde, qui a commencé bien sûr dans la Silicon Valley. C'était la seconde édition pour la Chine et c'était fort intéressant. Alors, côté géant de l'Internet américain, c'est assez amusant, puisqu'il y a le président de Google qui était là, Eric Schmidt, et qui est arrivé de manière extrêmement modeste. Vous savez qu'une semaine avant, il y avait Mark Zuckerberg qui avait fait un discours assez remarqué en chinois à l'université de Tsinghua, qui est un peu le Harvard chinois. Et bien là, alors lui, il a parlé plutôt en anglais, et il a dit tout simplement, ben voilà, Google est toujours présent en Chine, évidemment, pas du tout de la même manière que je pense qu'il l'imaginait, mais enfin, il continue à aller pas à pas vers le marché chinois en essayant de trouver des partenariats, d'avancer surtout sur Android, puisque vous savez qu'Android est quand même le système d'exploitation de Google qui est très très utilisé, notamment par Xiaomi, hein, le second fabricant de téléphones en Chine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux TechCrunch, associé d'ailleurs à TechNode, qui est un blog super intéressant pour les actualités de la Chine? Eh bien, on a vu en gros l'arrivée très 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 forte des acteurs du O2O, c'est-à-dire le offline to online, la manière dont les géants d'Internet bataillent, mais vraiment à coups de millions, pour racheter toutes les pépites, toutes les startups qui potentiellement arrivent sur un secteur d'activité comme la conciergerie, comme la livraison de nourriture à domicile, comme les taxis, pour essayer de les racheter, pour participer dedans et faire en sorte que tout cet écosystème revienne soit du côté d'Alibaba, soit du côté de Baidu, le moteur de recherche chinois proche de Google, ou bien sûr du côté de Tencent, hein, qui est, vous savez, l'éditeur du fameux WeChat, le centre de synthèse de Facebook et de Twitter, qui est utilisé par 600 millions de Chinois. Eh bien, alors là, ça a été épatant. On a eu sur scène le droit de assister à un grand show marketing et assez stratégique aussi de Titi Kouaidi. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Vous savez, Titi Kouaidi, c'est l'équivalent d'Uber, en fait, chinois. Ils ont quand même levé 3 milliards, ce qui est pas rien. Mais Uber est aussi en Chine, puisqu'il a lui-même levé 1 milliard pour essayer de se développer en Chine. La particularité de Titi Kouaidi, c'est que, contrairement à Uber, ils ne font pas que du peer-to-peer, c'est-à-dire des déplacements par véhicule avec des personnes qui n'ont pas forcément la licence de taxi. Ils jouent à la fois sur les taxis, avec des partenariats avec des villes chinois, mais aussi des personnes qui peuvent tout simplement rendre service en déplaçant des gens qui le souhaitent. C'est tout à fait en fait autorisé par le gouvernement parce que ça permet de créer de l'emploi, de créer du travail aussi pour différents Chinois. Donc ça, c'était une tendance très forte. Et puis, on a vu aussi sur scène l'arrivée d'autres startups spécialisées dans le O2O. C'est par exemple la livraison à domicile de nourriture, le mar, mais c'est aussi d'autres choses comme la lingerie, des domaines extrêmement ciblés, tout ce qui touche, voilà, des services très particuliers de la vie quotidienne. Mm-hmm. C'était un très très beau TechCrunch, et voilà, ça donne un peu un aperçu de ce que c'est que l'auto aujourd'hui en Chine.
Voilà, et Shanghai-Pékin, en TGV chinois, hein, Jean, c'est 5 heures de train, c'est ça?
Exactement, 5 heures de train.
Et oui.
À 300 km/h, donc 1500 km, et on voit bien la Chine, ce magnifique pays, c'est génial.
Bon, très bien, merci beaucoup Jean de Chambure. Jean de Chambure, vous le savez, chaque samedi dans l'atelier numérique, pour sa vue d'Asie, on le retrouve samedi prochain. Et vous restez avec nous, dans un instant, Silicon Carnet, Nathalie Doré, et les gadgets d'Antoine Cyr. À tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, on retrouvera Nathalie Doré depuis l'atelier US pour son Silicon Carnet. Mais auparavant, la sélection de gadgets d'Antoine Cyr. Mon cher Antoine, deux gadgets en ce samedi.
Oui, on va parler de circulation, on va parler d'accidents, ou plutôt de l'art de les éviter, sur lequel...
Vous avez pris le périph, vous?
Non, j'ai pas pris le périph, j'ai pris les quais pour être...
D'accord, ok.
Pour tout vous dire,
puisqu'on rentre maintenant dans votre vie privée.
Voilà, exactement.
Et donc ça n'a rien à voir avec le périphérique?
Non. En plus, moi, j'ai pris les quais en voiture, et ce dont je vais vous parler, c'est de la moto.
Ah.
Donc, alors.
Faut faire attention. C'est dangereux, la moto.
Je vais vous parler de voiture une seconde. J'ai eu l'occasion de monter, et même de conduire
une
Tesla, dans laquelle, vous ne touchez plus le volant. La voiture prend les virages tout seul.
D'accord.
Ce qui est assez spectaculaire. Alors, vous savez, il faut absolument qu'il y ait des lignes blanches le long de la route.
Eh oui.
Sinon, la voiture ne reconnaît pas et donc ne tourne pas.
Oui.
Mais, c'est pas conseillé, mais vous pouvez vous amuser, à emprunter une route relativement sinueuse, à condition qu'il y ait ces fameuses lignes blanches.
Et là, il n'y a pas de souci, la voiture suit les lignes.
Et donc, là, il n'y a pas de souci, la voiture suit, mais bon, c'est du coup, vous avez des virages relativement serrés, vous les abordez à une vitesse constante, parce que pour l'instant, la vitesse de la voiture ne se règle pas.
D'accord.
Plus tard, elle va se régler, ouais. Pour l'instant, elle est constante, hein. Et donc, du coup, vous voyez arriver le virage sur vous, vous êtes assez vite, et vous vous dites que non, vous ne devez pas intervenir, mais ça marche, ça a l'air de marcher assez
L'expérience
bien.
L'expérience Tesla vécue par Antoine.
Franchement, ça a l'air de marcher assez bien, c'est assez étonnant.
Bon, la moto.
La moto, alors là, c'est compliqué quand même de faire une moto qui se conduit toute seule.
Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est compliqué.
Eh bien, il y a quand même un moyen, mais alors c'est un moyen un peu exigeant, c'est en fait de remplacer le pilote de la moto par un robot qui va conduire la moto.
Tout simplement.
Et donc, Yamaha vient de créer l'événement en lançant le premier robot pilote de moto. Il s'appelle Motobot, donc c'est pas des bottes de moto, hein, ni avec un aigle sur le dos. Donc il s'appelle Motobot V1 et il a été présenté au Tokyo Motor Show. Pour l'instant, le pilote est capable de lancer la moto jusqu'à 100 km/h et de la maintenir en équilibre sur une ligne droite. L'objectif est de pouvoir rouler au-delà de 200 km/h afin de pouvoir aller aussi vite que des grands pilotes de moto sur circuit comme Valentino Rossi. Mm-hmm. Pour l'instant, l'idée, ce serait d'avoir un jour un motobot qui soit capable de piloter la moto mieux que ne le fait un véritable pilote de moto, mais vous voyez bien que quand même on en est aujourd'hui un petit peu loin puisque tout ça ne marche qu'en ligne droite.
D'accord. Bon, maintenant on va parler du ski.
Et puisque l'hiver arrive, je vais vous parler des airbags connectés pour skieurs chevronnés. Alors l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens d'avoir des vêtements de ski à airbag qui peuvent servir aussi bien au ski alpin qu'au ski de fond. Et alors donc l'idée, c'est d'avoir des tenues protectrices qui seront forcément connectées, parce que vous voyez bien que pour que l'airbag se déclenche, il faut qu'il se déclenche sur une véritable chute. Sinon, si à chaque fois que vous prenez un un virage un peu serré,
on a un airbag
qui se déclenche, ça peut être problématique.
Ouais.
Donc pour arriver à tout ça, il faut des algorithmes, des capteurs qui permettent de faire la différence entre un virage où le skieur se penche beaucoup et une véritable chute. Parce qu'évidemment, si les skieurs chevronnés ne peuvent pas se pencher beaucoup, ils vont avoir des problèmes d'airbag tout
Bien
le temps
sûr.
Et ça va pas du tout faire le boulot. Donc l'airbag connecté réalise 1000 analyses par minute et puis si vraiment il y a une chute, il peut se gonfler en moins de 100 millisecondes. Je sais pas d'ailleurs exactement. En fait, 100 millisecondes, ça doit être un dixième de seconde.
Oui,
potentiellement. Voilà. Et donc
un centième de seconde, non? Puisque c'est 100 millisecondes.
100 millisecondes, moi j'aurais tendance à dire que c'est un dixième de seconde.
Vous savez quoi?
Mais bon,
réfléchissez chez vous et vous le direz la semaine prochaine.
Donc c'est l'entreprise Dainese qui a lancé ces airbags et ils sont actuellement en appel d'offres avec la Fédération internationale de ski.
D'accord, très bien. À voir, ça peut avoir des débouchés, parce qu'on sait que parfois, il y a des accidents de ski qui sont dramatiques, bien évidemment. Mon cher Antoine, on se retrouve tout à l'heure pour le crash test, à la fin de cet atelier. Il sera question de quoi dans le crash test?
Il sera question de la journée nationale du stress.
Oula! Eh bien, dites-moi, c'est pour bien aborder le week-end.
Oui, mais c'est une invention anglaise.
Et après nos gadgets, place au Silicon Carnet maintenant. Elle est à San Francisco, c'est Nathalie Doré. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Alors aujourd'hui, on va parler des makers, c'est ça?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce mouvement. Alors il y a tout d'abord cette semaine l'American Tech Shop qui arrive en France. Il y a un partenariat avec Leroy Merlin et ils viennent d'ouvrir le premier atelier collaboratif en France. Et puis cette semaine aussi, l'exposition Wave pose ses valises à San Francisco et l'un des thèmes de l'exposition est le Maker Movement. Voilà, donc j'ai eu envie de vous parler de ce mouvement qui n'est pas forcément encore très très connu, qui a démarré ici aux États-Unis et qui se développe donc jusque chez nos grandes entreprises françaises.
Alors on va peut-être rentrer dans les détails, le mouvement des makers c'est quoi exactement Nathalie?
Alors tout d'abord un maker c'est quoi? Alors un maker c'est un état d'esprit. Un maker part de l'idée qu'il peut innover, il peut changer le monde sans être forcément un expert ou un professionnel. Pour un maker, il n'est pas nécessaire d'être très pro sur ce qu'il va pouvoir faire pour faire évoluer les choses. Et d'ailleurs, il s'agit souvent d'amateurs. Alors, ils sont souvent dans les garages. Dans les garages, il y a toujours eu des bricoleurs pour bricoler la voiture ou la maison ou que sais-je d'autre. Mais depuis la complexité de la microélectronique et des logiciels, et bien depuis ce moment-là, la plupart des gens ont perdu contact avec le produit. Et c'est là qu'en fait le mouvement des makers reprend le contrôle sur la technologie et offre à cette population la possibilité de venir bricoler, faire des choses. Donc c'est aussi un peu le mouvement du do-it-yourself. En leur proposant un lieu avec des imprimantes 3D, beaucoup de machines et technologies, mais aussi des forums en ligne sur Internet pour échanger des astuces entre eux, partager des expériences. Autant d'éléments en fait qui sont désormais à la portée des amateurs.
Et c'est comme ça qu'est né en fait Tech Shop, c'est ça?
Oui, alors Tech Shop, c'est un peu le précurseur aux États-Unis. Il est né suite à ce mouvement des makers, puisqu'il fallait des lieux pour leur permettre d'exercer leur passion. Et Tech Shop met à disposition de sa clientèle des ateliers. Alors ça marche avec un abonnement accompagné, parce qu'en fait le parc de machines est très complet et très cher. Souvent la valeur du parc de machines d'un Tech Shop est supérieure à $1 million. Et du coup, ils accompagnent leurs abonnés pour utiliser les machines et réaliser ainsi leurs projets les plus fous. Alors, Tech Shop, ils offrent aussi des formations pour que les personnes puissent se former à ces techniques de fabrication, de modélisation numérique, de prototypage et d'innovation. Et j'ai eu la chance de rencontrer le CEO de Tech Shop, Mark Hatch. Et c'est lui qui a développé le concept aux États-Unis et c'est lui aussi qui est à l'origine du partenariat avec Leroy Merlin qui démarre là en France. Et quand on l'interroge sur pourquoi ce partenariat, finalement, il dit il y a beaucoup de façons de créer du lien avec les clients et le Tech Shop en est un. Et c'est vrai que ça sera une façon, notamment sur le bricolage, de créer du lien avec les clients. Voilà, donc ce mardi, en fait, Leroy Merlin a ouvert au public dans la région parisienne le premier Tech Shop en Europe, un atelier de fabrication collaboratif, et les gens pourront donc se former et continuer à bricoler. Alors, aux États-Unis, un Tech Shop, c'est à peu près 1400 abonnés, donc reste à voir comment va prendre l'expérience en France. Mais l'esprit du Maker Movement est donc bien là, la volonté de favoriser la création pour le plus grand nombre, c'est désormais exporté en France. Après Uber et Airbnb, voici une autre pépite made in San Francisco qui traverse les frontières. Donc, c'est on dit le meilleur pour la suite.
Bon, Nathalie, il va falloir que j'aille chez Leroy Merlin, alors, ici à Paris, pour détecter et découvrir tout ça. Bon, c'est pas gagné, hein, parce que je suis pas un grand bricoleur quand même. Mais bon, on va tenter. Merci beaucoup Nathalie. Nathalie Doré, donc,
merci,
depuis
François.
L'atelier US. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec notre focus startup et notre enquête de l'atelier. On va évoquer les routes et les autoroutes de demain. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va s'intéresser à la route et aux autoroutes de demain. Connectées, bien sûr, intelligentes. On va en parler dans quelques instants avec Lila Megrawa et nos invités. Mais auparavant, notre focus startup. Aurore Géraud, vous avez détecté pour nous dans votre radar. Eh bien, la startup, voilà, c'est ça qui fait tut, le radar. La société Wistock qui est en fait spécialisée dans le co-stockage et aussi le garde-meuble entre particuliers.
Oui, avec nous pour en discuter, Sarah Ponce, qui est responsable communication chez Wistock. Sarah, bonjour.
Bonsoir.
Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'est Wistock
et comment ça marche?
Comment ça marche?
Alors, Wistock, donc c'est un site qu'on a monté il y a un an et demi, donc qui met en relation des particuliers qui ont des espaces inutilisés chez eux. Donc ça peut être une cave, un garage, ou ça peut être même un cagibi, un placard, un grenier, toutes sortes d'espaces qui peuvent mettre à disposition d'autres particuliers qui eux cherchent justement un espace de stockage.
Ah oui, d'accord. Si j'ai bien compris, moi j'ai une armoire, elle est vide.
Oui. Oui.
Je peux le signaler sur votre site et après il y a quelqu'un qui va venir la remplir.
Exactement, voilà.
Mais ça répond à quelle demande ? Est-ce que les gens veulent plutôt aller vers du partage désormais plus que des entreprises de stockage individuelles ?
Alors déjà le premier, moi je pense que la première motivation des personnes, c'est chercher la solution la plus économique pour le stockage. Aujourd'hui, enfin avant les solutions qui existaient, c'était les garde-meubles classiques, centres de self-stockage. Ça c'est des prix assez exorbitants. Ça se situe loin des villes et donc c'est pas forcément la solution la plus adaptée à du stockage. Et surtout aux personnes qui cherchent voilà des solutions plus économiques. Donc c'est pour ça qu'on propose une solution qui donc allie cet avantage économique de la mise en relation de particuliers, mais avec un service comme les professionnels, donc une démarche encadrée, avec un module de paiement, une assurance, un contrat de location, etc.
Oui, parce que mon armoire, je vais la louer, si je reprends mon exemple, en fait, c'est ça?
Oui, voilà, exactement.
D'accord.
Mais dans cette location, on va vous aider à la louer. Vous n'êtes pas seul à essayer de. Voilà, vous n'avez pas un contrat à faire, etc. On s'occupe de tout. Vous avez juste à donner donc l'accès à votre locataire et voilà.
D'accord. Mais alors parce qu'en plus, je ne sais pas du tout combien je pourrais la louer mon armoire. Donc vous allez me suggérer des tarifs, c'est ça?
Exactement. Alors quand vous allez inscrire votre espace sur notre site, vous allez indiquer donc une superficie, une adresse, le type d'accès de votre espace. Et à ce moment-là, nous, on va vous suggérer un prix, le prix selon l'étude de marché qu'on a fait, et donc le prix qui sera adapté à se pratiquer dans le quartier. Voilà. Donc le plus adapté à votre espace. Et vous pouvez après le revoir à la hausse ou à la baisse, bien sûr. Mais voilà, on vous aide dans ces démarches.
D'accord. Et d'un côté pratique, il faut qu'après je condamne mon armoire, que je la ferme, parce que effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas à moi. Ou alors, il y a quand même une.
Les gens y accèdent.
Voilà. Malgré tout, on arrive à avoir une confiance. Ouais. Comment ça se passe?
Alors, oui, il y a forcément. Donc, nous, on essaye vraiment de créer un cercle de confiance. On fait tout pour. C'est exactement comme les sites comme BlaBlaCar, Drivey, etc., que vous devez bien connaître. Donc, il y a un système de notation entre locataires et propriétaires. Après, bien sûr, les espaces qui sont proposés sur notre site, sont des espaces sains, clos. Donc, vous avez, ils sont fermés à clé.
D'accord. Et donc après, la personne peut y venir quand elle veut parce que c'est vrai si elle décide de venir à 3h du matin vider son armoire, alors que moi je suis en train de dormir, c'est pas l'idéal.
Alors, bien évidemment, donc les locataires et propriétaires se voient avant quand même, ou on discute avant pour voir les conditions d'accès. Le propriétaire, lui, quand il met un espace sur notre site, il peut choisir entre deux types d'accès, permanent ou sur rendez-vous. Donc sur rendez-vous, le locataire n'aura pas accès quand il voudra, mais que sur rendez-vous, et après permanent, il aura la clé. Pour y aller quand il veut.
Parfait.
À 3h du matin, comme vous.
D'accord. Et ça s'appelle Wistock, donc. Merci beaucoup, Sarah.
Merci,
Ponce.
Sarah.
Merci.
Merci à vous.
Et place maintenant à notre enquête de l'atelier. On va découvrir la route de demain avec Lila Megrawa et nos invités. On attache nos ceintures. C'est parti.
Mais tout à fait François, on parle énormément de voitures, voitures connectées, véhicules autonomes, mais pour autant, a-t-on vraiment les routes pour, et puis surtout, interrogeons-nous sur à quoi elle pourrait ressembler cette route de demain. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux spécialistes du sujet. Olivier Alamo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur marketing et services chez Vinci Autoroutes. Et nous avons également le plaisir d'avoir en studio Nicolas Autière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du projet Route 5e génération à l'IFSTTAR.
Eh bien, dites-moi, bien balancé, Lila. On voit que vous avez bien répété. Hein.
Soit l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Alors, on va commencer par vous, Olivier Alamo. Dites-nous un peu, quelle est la vision de Vinci Autoroutes sur la route connectée à la fois d'aujourd'hui et de demain?
Alors, tout d'abord, il faut préciser qu'il y a des éléments clés qui orientent aujourd'hui le marketing, on va dire, de nos concessions autoroutières et des routes au sens large. Trois éléments. Le premier, c'est le digital. Alors, c'est au travers des téléphones intelligents, c'est au travers des réseaux sociaux, c'est également au travers des services communautaires. Le digital a investi notre quotidien et modifié complètement nos attentes en matière de services. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui est fondamental, ce sont les nouveaux usages, notamment avec le fort développement de l'économie du partage dans le domaine de la mobilité. Et enfin, les véhicules de demain connectés, voire autonomes. Donc ce sont trois éléments qui constituent les fondations de nos politiques en matière de route et d'autoroute.
Alors concrètement, quels services ont émergé chez Vinci Autoroutes? Qu'est-ce que vous proposez de neuf en matière de routes connectées?
Alors, il y a tout d'abord une démarche qui a été engagée assez récemment et qui consiste à travailler avec des start-up. Et ça, c'est assez nouveau dans un système d'open innovation, à la fois des start-up matures, telles que Blablacar pour le covoiturage, Coolicar pour l'autopartage ou encore Waze pour l'information trafic. Mais nous travaillons également très en amont avec des jeunes pousses ou des start-up qui sont naissantes et selon un format d'open innovation. On les sélectionne au travers de concours d'innovation ou de hackathon. Et nous les assistons, voire nous les accélérons. Alors parmi les projets concrets, pour répondre directement à votre question, il y a tout d'abord un service d'alerte personnalisé sur trajet habituel, sur le trajet habituel du client, qui est très utile avant de prendre la route. On a un deuxième service qui permet de commander un repas en ligne avant son départ et de le récupérer en file prioritaire sur une aire de service. Et enfin, un autre exemple, un service de pause ludique sur air qui permet de faire découvrir les bons plans touristiques et les territoires traversés, là aussi avec une start-up.
Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le conducteur de bout en bout sur la route, sur l'autoroute.
Oui, tout à fait, c'est bien ça, c'est d'offrir du service, de nouveaux services, avec un vrai besoin de nos clients d'être connectés en permanence sur nos infrastructures, bien entendu pas en conduisant, et c'est soit le passager qui le fait, soit le conducteur à l'arrêt. Mais on veut aller encore plus loin, et ce qu'on prépare pour demain, pour l'autoroute de demain, notamment chez Vinci Autoroutes, c'est la récompense de nos clients en cas de signalement d'événement. C'est aussi la récompense en cas de départ anticipé ou différé par rapport à des périodes de forte migration. On songe aussi à les récompenser dès lors qu'ils respecteront le fameux arrêt sur R toutes les deux heures. Et vous connaissez l'attachement de Vinci Autoroutes à la sécurité au travers de sa fondation. Et tout ça, on va le faire au travers d'un système de récompense qui fonctionnera sur mobile et qui permettra donc de jouer le jeu avec ton client.
Alors moi, j'avais une petite question concernant le péage. Avec tout ce que vous nous expliquez, vous nous présentez, on se dit que finalement une barrière qui s'ouvre et qui se ferme pour qu'on rentre ou sorte d'une autoroute, ça paraît presque d'un autre âge. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau système demain, à partir du moment où on intègre votre réseau, être géolocalisé, pouvoir payer, comme aujourd'hui on peut le faire avec finalement un stationnement, hein, où on n'est plus obligé de prendre un ticket, on rentre sur une appli et puis voilà, on paye. Vous réfléchissez à ça ou pas?
Alors, vous le savez, aujourd'hui on a des technologies de passage au péage qui permettent de finalement franchir les infrastructures que vous évoquez sans s'arrêter, c'est le télépéage, et qui nécessite une identification préalable du client. On travaille bien entendu à d'autres modes de collecte du péage, notamment reposant sur des plateformes de type smartphone ou pourquoi pas véhicules connectés. Alors après, je dirais l'étape ultime et que vous évoquez, c'est le free flow, hein, c'est le passage sans s'arrêter. Là, c'est pas tant la contrainte technologique qui s'impose à nous, c'est plutôt la contrainte réglementaire et législative qui fait que il faut être capable de gérer ce qu'on appelle l'enforcement et donc le passage des clients qui ne se sont pas identifiés au préalable.
D'accord.
Nicolas Autière, vous travaillez un projet de route. Route intelligente dite de cinquième génération, elle va ressembler à quoi cette route cinquième génération? Est-ce qu'elle va accompagner nos véhicules autonomes? Est-ce qu'elle va elle va recharger les véhicules?
En fait, elle va faire tout ça. C'est en tout cas ce qu'on essaie de proposer. C'est une route un petit peu repenser, hein, repenser intégralement sur ces différentes fonctions. Donc, pour accompagner effectivement le véhicule autonome, hein, le rendre plus sûr avec une signalisation fiable dans le temps, des informations de qualité, mais aussi accompagner, là on rentre dans la technique, hein, dans la science, sur des matériaux plus économes, plus sobres en ressources. Je vais vous donner l'exemple, on pense à des routes à base de microalgues pour remplacer le pétrole demain. On pense aux routes qui vont recharger les véhicules électriques, par exemple à l'aide de solutions induction. On roule et puis votre véhicule se recharge. Et demain, aussi une route, on va dire, à énergie positive, qui va produire de l'énergie pour se dégivrer. Okay. Mais en été, refroidir les quartiers, hein, une clim réversible à l'échelle de la route, de la rue. Et puis, pourquoi pas une route solaire, c'est-à-dire remplacer le bitume actuel par des panneaux solaires pour aller travailler à l'effacement, ce qu'on appelle l'effacement énergétique de la consommation de la route.
Est-ce que tout ça, c'est des vœux pieux, des rêves? Est-ce que c'est une réalité concrète? Est-ce que toutes les initiatives dont vous parlez sont en cours de test, en bêta test?
Alors, grosso modo, il y a 4-5 ans, quand on a commencé à évoquer ça, oui, c'était un doux rêve. Et aujourd'hui, on a à peu près sur étagère toutes ces innovations, mais un petit peu en ordre dispersé. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est comment on peut mettre tout ça. Démontrer que tout ça peut fonctionner en même temps.
Est-ce que vous avez des exemples dans quelle région française on peut déjà voir en expérimentation en réel cette route solaire ou cette route qui va communiquer avec votre véhicule ou qui va recharger votre véhicule?
Alors, vous allez avoir dans nos laboratoires, nos pistes d'essai à Nantes ou à Versailles, vous allez avoir des démonstrateurs de routes électriques ou alors de routes solaires. Mais vous allez avoir des exemplaires ou des capteurs déjà en fonctionnement. On parle avec mon collègue de Vinci Autoroute, des exemplaires de travaux communs, hein, sur la section A10 à 11.
Voilà. Et je me posais la question par rapport à la maintenance et réparation de ces routes. Est-ce que si ces routes sont connectées, ça pourrait pas être un moyen fabuleux d'auto-diagnostic à la fois des véhicules et des routes?
Oui, c'est exactement ça. Nous, on travaille par exemple sur l'usage de smartphones. Hein, on est dans la même mouvance, hein, transition numérique. D'utiliser les smartphones comme un détecteur de nid de poule, on va dire, pour faire simple, pour informer le gestionnaire de dégradation subite. Mais effectivement, on peut aussi renverser le principe, faire du diagnostic de la voiture et avertir, connaissant la route, si elle est très bien entretenue, on peut savoir que la voiture, par exemple, a un problème d'amortisseur. Voilà, on peut renverser le principe.
Demain, les routes, pareil, est-ce qu'on pourrait les imaginer interconnectées et pouvoir, même si ça existe déjà, notamment avec Radio Vinci Autoroute, pouvoir, par exemple, renseigner de l'état de la prochaine route que mon véhicule va prendre?
Oui, je crois que ça existe déjà. De toute façon, quand on voit le développement des réseaux communautaires, on pense notamment à Waze, qui est une société avec laquelle nous travaillons. Le signalement d'événements aujourd'hui se fait par les clients, et c'est grâce aux clients qui nous remontent ces événements que nous pouvons le signaler.
Vous surveillez Waze, et dès que vous voyez par exemple des incidents sur votre réseau, vous intervenez?
Tout à fait, c'est Waze en fait qui nous alimente au travers de son réseau communautaire, qui alimente la radio, mm-hmm. et qui nous permet de diffuser au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on passe d'un schéma communautaire à un schéma d'information plutôt massifié, et donc on le fait déjà. On le fait également au travers de choses qui sont bien plus simples. Nous disposons d'une application qui permet de signaler des événements directement au service d'exploitation et qui permet des interventions encore plus rapides dès lors que les événements sont avérés.
Très bien. Et c'est fiable, Waze? Alors, il y a un taux de, on va dire, de réussite assez impressionnant.
Vous savez, dès lors que vous avez une communauté qui est importante en nombre et qu'il se passe un événement, vous avez suffisamment de, je dirais, d'itérations pour confirmer l'événement. Donc, on peut considérer j'affirme que c'est tout à fait fiable aujourd'hui en termes d'informations diffusées.
Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Pour toutes ces précisions, voilà, on imagine un peu mieux, Alila, la route et les autoroutes de demain, hein, avec toutes ces innovations.
Savoir pour quand.
Et oui, voilà, c'est vrai. Merci beaucoup. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier sur BFM Business. Vous restez avec nous, notre web stratégie et puis notre passion selon Sanet. Vous verrez que l'innovation à la française, elle n'est pas morte. Elle existe toujours, bien heureusement d'ailleurs. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business avant de parler d'innovation à la française. Et non, le génie français n'est pas mort avec notre invité Elila. Avant tout cela, c'est notre web stratégie sur BFM Business. Dans cet atelier, on va s'intéresser à la livraison express qui est à l'épreuve du digital. Et on va s'intéresser au cas d'UPS avec vous, Lila Megrawa.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François, alors pour cette web stratégie, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une vieille dame, âgée de 108 ans. Elle a au compteur 58 milliards de chiffre d'affaires. Elle livre jusqu'à 4,6 milliards rendez-vous compte de colis dans 220 pays. Vous l'avez compris, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Laurent Nédon. Bonjour.
Bonsoir.
Alors, Laurent Nédon, vous êtes directeur marketing Europe de l'Ouest d'UPS. Alors, Laurent, quand et comment UPS a passé son virage vers le digital? Est-ce que c'est pertinent de parler de stratégie digitale quand on parle d'UPS?
Oui, tout à fait. Mais avant de répondre à cette question, j'ai juste repositionné un petit peu l'entreprise parce que UPS est une vieille entreprise. Entreprise avec une histoire, et l'entreprise s'est toujours transformée au fil du temps en fonction de l'évolution des moyens, des capacités, de la technologie. Donc le digital pour nous c'est quelque chose de naturel, et bien entendu ça fait partie des développements technologiques que l'on a en permanence dans nos réseaux. Donc oui, on peut dire que UPS est en pleine transformation digitale et en pleine transformation en permanence.
Est-ce à dire que les technologies, la R&D est un budget important d'UPS?
Pour vous donner un ordre d'idée, UPS dépense 1 milliard de dollars par an en investissement dans la technologie, parce qu'on considère que la technologie est vraiment le point le plus important pour pouvoir développer des réseaux et pour pouvoir offrir à nos clients des solutions qui sont sur la base des réseaux qui ont été développés.
Pour se représenter, est-ce que vous pourriez nous dessiner un parcours type de livraison digitalisée? À quel point ce parcours de la livraison est digitalisé? Par exemple, prenons l'exemple, avant même la livraison, votre livreur, dans quelle mesure il est digitalisé? Vos camions également, j'imagine.
Je pense que la digitalisation va bien en amont de tout ça, parce que ce n'est pas uniquement une histoire d'UPS, de ses camions et de ses employés, c'est aussi avoir des relations avec nos clients et avoir des connexions. Donc la digitalisation commence avec la capacité à nos clients de communiquer avec nous de façon électronique et informatique. Et ça, c'est en place depuis des années, et d'apporter des solutions qui sont basées sur ces échanges d'informations. Cette information-là est communiquée par nos clients dans nos centres. Donc, quand un client a besoin d'envoyer un colis, il se met sur une application internet, ou il se met sur un ordinateur, il se met sur sa tablette, ou il appelle un call center pour déclencher un enlèvement. Et là, la demande d'enlèvement qui est déclenchée par le client arrive directement sur le tableau de bord du conducteur, qui, dans son véhicule, a un ordinateur embarqué qui lui permet de communiquer avec l'entreprise, de savoir à tout moment où est-ce qu'il doit s'arrêter, où est-ce qu'il doit prendre un colis et où est-ce qu'il doit commencer sa prise en charge. À partir de là, c'est le démarrage de la vie du colis dans notre réseau, puisque le conducteur va scanner ce colis-là pour l'intégrer. C'est-à-dire qu'on a reçu l'instruction du client de prendre en charge un colis qui est déjà dans nos systèmes. Le conducteur valide que ce colis est bien arrivé. Et ensuite, dans toute la chaîne logistique jusqu'à la livraison, le colis va subir un nombre de scans inimaginables en fonction de ce que va nous donner, ce va nous demander cette fois-ci le client destinataire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un client destinataire également. Et que la grande révolution, je dirais, de ces dernières années en termes de digital est que le client destinataire prend de plus en plus d'importance.
Notamment avec cette notion de livraison au dernier kilomètre, comment vous adressez cette problématique ?
Je pense que ça a été le point tournant, vraiment le développement du e-commerce, du commerce en ligne, a fait changer complètement la méthode de communiquer avec nos clients. Pour vous donner une idée, il y a une dizaine d'années encore, les relations étaient surtout en ligne avec nos clients expéditeurs qui voulaient avoir simplement de l'information sur où étaient leurs colis, à quel moment ils étaient livrés, qui avait signé la réception du colis, donc avec une signature électronique et digitalisée. On en est maintenant à une situation où en réalité c'est le destinataire, notamment en ce qui concerne le e-commerce, qui prend le contrôle de toute cette information. On assiste à une mobilité importante. Le destinataire veut absolument pouvoir contrôler où, quand, comment il va recevoir son colis. Et il veut être le maître d'œuvre en réalité de la façon dont il va recevoir le colis chez lui ou l'endroit qu'il décide de recevoir le colis. Donc pour ce faire, on a développé des solutions. Et là, la digitalisation est encore une fois importante puisque on a mis en place des solutions en ligne. Nous avons mis en place des applications en ligne qui sont disponibles sur un smartphone, sur une tablette ou sur n'importe quel accès à un ordinateur, notamment UPS My Choice, qui permet aux clients de s'enregistrer. Donc consommateur de s'enregistrer, et à partir de là, de choisir ou de définir tous les critères qu'il souhaite en termes de préférence de livraison. Donc par définition, il peut définir qu'il souhaite être livré uniquement à domicile ou chez une tierce personne où il indique l'adresse, ou dans un point relais ou un point d'accès qu'il va déterminer. Ou il peut nous demander simplement de faire continuer la livraison normalement et recevoir le colis à son domicile. Il peut également recevoir des préalertes de notification pour dire quand est-ce que le colis va arriver. Il peut choisir quand il souhaite avoir ces notifications, si c'est la veille de la livraison, si c'est le jour de la livraison. Il peut définir des créneaux horaires de livraison. Donc le destinataire choisit vraiment la façon dont il souhaite être livré avec UPS. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a 15 millions de personnes qui sont connectées et qui ont accès à cette application et qui travaillent tous les jours avec nous et qui nous transfèrent de l'information, qui nous transfèrent leurs demandes et leurs priorités en termes de livraison.
Est-ce que la voiture connectée pourrait être une piste pour vous ? Je vais vous donner un exemple. Je pense notamment à une initiative de Volvo que je trouve assez épatante, à savoir qu'il propose un système de livraison directement en coffre, dans le coffre du consommateur.
Mais en ce qui concerne la livraison en véhicule, je dirais qu'aujourd'hui, on sait que les particuliers, livrer les particuliers est vraiment la contrainte la plus importante en termes du dernier kilomètre sur la partie e-commerce. Donc on est toujours à la recherche de solutions multiples, diverses, variées, qui nous permettent d'être efficaces et en tout cas de pouvoir atteindre l'objectif que nous donnent nos clients. Il y a des recherches qui sont faites, des tests qui sont faits. On travaille beaucoup par test chez UPS. On a l'avantage d'avoir énormément de pays et des pays avec des cultures différentes également et des besoins différents. C'est-à-dire qu'un client consommateur allemand va pas réagir de la même façon qu'un consommateur français. Donc les besoins doivent être également adaptés et différents. Des tests sont faits dans certains pays pour voir qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui est le plus adapté en tout cas à la culture du pays. pourquoi pas. On n'est pas fermé à, on n'est absolument pas fermé à aucune solution pour pouvoir livrer des clients de façon efficace.
Laurent Nédon, merci. Je rappelle, vous êtes directeur marketing Europe de l'Ouest du PS.
Lila Megraoua, merci. On revient dans un instant. Passion selon Sonnette dans une minute sur BFM Business dans cet atelier. À tout de suite.